On a appris récemment qu'il y a un recours collectif qui a été accepté pour faire un peu la lumière et en fait, il y a des gens qui veulent un dédommagement pour ce qui s'est passé, ce qui s'est produit durant les deux premières vagues de la pandémie au Québec, ce qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages dans les CHSLD. Quand je parle de dommages, bien, c'est des vies humaines qu'on a perdues durant ces deux premières vagues. Ça a été intense. Et donc là, il y en a qui veulent des questions, des réponses, qui veulent avoir des dédommagements à propos de tout ça. Et pour nous en jaser, bien, on a avec nous aujourd'hui Mme José Grenier. Vous êtes professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre entrevue parce qu'on a cherché à mettre des lignes à l'eau avec certaines personnes qui étaient peut-être moins à l'aise, on voulait peut-être attendre plus d'informations avant de commenter, mais vous êtes spécialisée dans la question de la gérontologie. Ma première question, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris ce recours collectif? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a étonné? Comment vous avez appris ça? Comment vous avez réagi?
Bien, un peu comme vous, là, par le biais des journaux. En fait, moi, j'ai une réaction favorable à ça. En fait, on le sait que ça a été quand même une catastrophe, là, on va le mentionner comme ça, là, dans les CHSLD. Donc, ce que les gens souhaitent, en fin de compte, c'est de faire la lumière sur les événements. Tu sais, il y en a d'autres. Je dirais que on peut voir là, la protectrice du citoyen a fait quand même, je dirais, un travail important. Puis à tenter de mettre en lumière là, les grands enjeux qui ont eu lieu pendant la pandémie dans les CHSLD. Mais je considère qu'on a un devoir de mémoire, donc de faire un retour sur la situation. Moi, je vois ça d'un bon œil, en fait. Puis, faut le mentionner là, à travers ça, bien, il y a eu beaucoup de souffrance. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça aussi que les gens expriment à travers cette demande-là. Et puis c'est aussi comment je peux dire ça? Non, c'est aussi un rappel, je dirais, à l'État. C'est un rappel à l'État que l'État n'a pas fait ses devoirs, je dirais, de façon exemplaire. On n'a pas bien agi, en fait. Et je pense que de faire un retour sur l'histoire, ben, va nous permettre aussi de mieux agir, parce qu'on a un devoir envers les personnes vulnérables aussi. T'sais, il y a une responsabilité de l'État envers les personnes vulnérables. Puis on est dans les services publics ici. Là, c'est des services publics. Donc, on doit être protégeant, de mon point de vue, envers cette catégorie de population-là là, aussi. Là.
Parce que rappelons qu'au début, cette pandémie-là nous a pris un peu tout le monde par surprise, en tout cas son ampleur, oui. Parce qu'on voyait que ça se répandait. Puis quand c'est arrivé dans les CHSLD, ça a été très rapide l'effet de tout ça, même que on a le CHSLD Aaron où il y a des gens qui ont été vraiment laissés à eux-mêmes. Ça a été un drame terrible. Mais il fallait se préparer à l'inévitable. Ça, il faut prendre ça en compte quand même en disant, tu sais, on veut que les gens aient un dédommagement ou on veut réparer les erreurs du passé, mais se préparer à quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est un peu l'odieux d'avoir à faire ce travail-là. C'est difficile.
Oui. Oui. En fait, vous savez, ça fait plusieurs années qu'on vise les CHSLD, puis qu'on dit ben qu'il y a des choses qui vont pas dans les CHSLD. C'est aussi ça, moi, je pense, le recours collectif. C'est aussi ça qu'on va mettre en lumière. Et c'est ça qu'il faut changer aussi par rapport aux CHSLD. T'sais, il y a plusieurs choses là, qui ont été mentionnées qu'on doit revoir dans les CHSLD. Là. C'est sûr que c'est une pandémie. Hein. Personne n'était préparé véritablement à ça. Mais je pense que ce que ça nous dit aussi, c'est d'être mieux préparé aussi par rapport à la pandémie d'un. Là, tu sais, donc, il y a plusieurs éléments là, tu sais, qui ça nous a démontré qu'on était aussi beaucoup dans une culture hospitalo-centrique, là, faut le dire aussi. Fait que c'est comme si les CHSLD, on n'avait pas pensé à l'ampleur d'une crise en CHSLD. C'est comme si, ben, on le mentionne bien là, dans la littérature, là, c'est que les CHSLD, c'était un angle mort. C'est des choses qu'on n'avait pas vues, mais que là... S'il y a une prochaine crise, ben j'espère qu'on va être mieux préparé. On a juste à penser aussi à la formation du personnel aussi. On avait une pénurie, on a eu une pénurie de personnel. Il y a du personnel qui a voyagé aussi d'un établissement à l'autre. Donc, plus jamais, on a manqué aussi de matériel. Ça aussi, on a fermé la porte aux personnes proches aidantes. Ça, je pense pas qu'on va refaire ça plus jamais, là, ça, là.
Mais justement, où est-ce que, parce que vous avez suivi le dossier, j'imagine, beaucoup plus que la moyenne des gens. Où est-ce qu'on aurait pu faire? Tu sais, j'imagine que c'est pas tout mauvais. J'imagine qu'il y a des choses qui ont bien été faites ou peut-être plus tôt auraient dû être faites plus tôt. Qu'est-ce qu'il y aurait? Tu sais, est-ce qu'il y a des éléments facilement qu'on peut pointer, dire ça c'était douteux, ça c'était une bonne décision, ça on l'aurait pu le faire différemment? Comme le, par exemple, ben, vous avez parlé des prochains
dents. Tout le matériel, en fait, le manque de matériel pour le personnel est de un, là, ça c'est sûr. La formation du personnel à venir, là, tout ce qui a trait aussi au domaine des infections, ça aussi, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être nécessairement qui vont être revues aussi. L'aspect aussi de l'information, là aussi, on a eu au début de la pandémie, là, dans un contexte de confusion. Donc, la difficulté aussi de transmettre de l'information du ministère jusqu'au terrain. T'sais? La ligne directe, elle s'est pas nécessairement faite aussi. L'information transmise en temps réel c'est pas nécessairement faite. Avoir des gestionnaires sur place dans les CHSLD, donc qui prennent des décisions aussi, puis faut qu'il y ait une gouvernance locale à tout point de vue lors d'une crise, parce qu'il faut prendre des décisions à partir du contexte qui est en présence. Donc tous les contextes sont pas les mêmes nécessairement. Selon les milieux aussi. Il ne faut pas l'oublier, c'est un milieu de vie aussi, les CHSLD. Il y a une autre chose aussi, ben, chouette, moi, qu'on c'est tout l'aspect aussi de pénurie de personnel. Ça aussi, tu sais, il faut valoriser, c'est des métiers qu'il faut valoriser pour l'avenir également. Même chose, on parle beaucoup des préposés aux bénéficiaires, mais la même chose aussi pour les infirmières. C'est qu'on ait du personnel qualifié, formé et stable dans les CHSLD. Puis ça a amené aussi de la négligence au niveau de certains soins aussi dans certains CHSLD par manque de personnel aussi. Il ne faut pas l'oublier, le personnel a été aussi contaminé. Il y a eu de la contagion qui se sont propagées. Donc ça aussi, il y a eu une absence du personnel aussi.
Puis est-ce qu'il y a eu une évolution? Parce que là, de ma compréhension, ce recours collectif-là, on parle, les dates, là, c'est pas mal les deux premières vagues.
Oui.
Si ça va pas plus loin, est-ce que c'est parce que, justement, il y a des pratiques qui ont changé, on les a améliorées, puis parce que là, de ce qu'on parle, c'est vraiment les deux premières vagues. Ce que vous dites, il y a eu certains effets?
Bien, il y a des choses qu'on a changées, là. Vous voyez, au fur et à mesure, là, les proches aidants n'étaient pas... Les personnes proches aidantes n'étaient pas admises au début, durant la pandémie. Et là, on a changé à plusieurs endroits, là, notre façon de faire. Parce qu'on se rend compte que les personnes proches aidantes, ben elles sont importantes pour les personnes aînées, puis elles donnent aussi parfois beaucoup d'aide puis de soutien aussi aux préposés. Puis des gens isolés pendant un certain temps, ben on le sait qu'il y a une détresse, le moral, ben il y a un déclin aussi physique et cognitif aussi. Donc c'est des choses, je pense qu'on ne fera plus, on fera plus jamais ça là.
Ça m'amène à ma prochaine question, donc, parce que ça, je l'ai entendu beaucoup, le fait qu'on a isolé un certain moment, puis que là, on a eu de la détresse chez nos aînés qui étaient, puis j'en ai dans ma famille, là, qui étaient littéralement prisonniers de leur logement, puis on se disait, à un certain moment, on fait même pas ça pratiquement à des détenus, comment est-ce qu'on peut faire ça à nos aînés, à nos bâtisseurs? Comment donc, la question, protéger les plus vulnérables sans brimer leurs droits? Parce que ça, c'est un équilibre fragile. Parce qu'on sentait qu'il y avait des gens qui disaient, écoutez, il faut leur laisser de la liberté à ces gens-là. On ne peut pas les laisser mourir dans leur logement. Et d'autres qui disaient, oui, mais il faut les protéger. Donc, la balance entre la protection et la vie privée, d'être libre de ces mouvements, c'est difficile à tracer une ligne entre les deux. Là, parce qu'un vient contrebalancer l'autre un peu, là.
Est-ce que vous parlez ici des gens qui sont dans leur domicile, CHSLD?
CHSLD ou dans les résidences pour personnes âgées, entre autres, là. Mais tu sais, il y a des gens qui ont été vraiment isolés parce qu'on voulait les protéger, mais en même temps, justement, le cognitif ou le côté social en a pris pour son rhume, là.
Ben oui, il y a eu de la détresse, là, vous le savez. Il y a certaines résidences là où les gens, on le sait, ne pouvaient pas sortir. Même de sortir dans le corridor, là, c'était interdit. Puis à un moment donné, bon, on était un peu plus laxiste. Il y a eu, puis au-delà de la détresse, là, une anecdote plus personnelle, là, en résidence. Puis il y a une dame qui s'est suicidée aussi. Là. Fait que ça peut aller loin aussi dans un contexte où les gens sont déjà, où leur réseau est externe. Là. Les gens qui vivent seuls, les gens plus âgés vivant seuls, puis leur réseau est à l'extérieur, ben oui, ça amène une détresse aussi. Puis en lien avec ça, en lien avec les résidences privées, ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui habitaient en résidence privée puis qui ont décidé aussi de ne plus habiter en résidence privée à cause de, justement de ces événements-là parce que Ben là, c'est une liberté contrainte aussi, là, t'sais. Tu veux protéger les gens, on veut protéger les gens, mais il y a aussi, il y a où justement le juste équilibre entre la protection.
C'est ingrat, là.
Ben oui, c'est ça. Et le droit de s'autodéterminer aussi, là. T'sais. Fait qu'on est allé loin à certains moments donnés aussi. Même pour les gens du domicile où on disait faites attention, vous pouvez pas sortir non plus. Fait que oui, on est allé très loin là, par rapport aux droits des personnes aînées, là.
Bien, écoutez, on va suivre ça parce que ce n'est que le début de ce nouveau dossier de la pandémie, ce dossier post-pandémique, on pourrait l'appeler comme ça. On va suivre ça. Ça risque de perdurer dans le temps encore plusieurs mois avant qu'on ait un dénouement à ce niveau-là. Puis on disait même qu'il y a des CHSLD qui figurent dans la liste, par exemple chez nous, du côté du centre d'hébergement de Gracefield, qui figurent dans la liste, mais on dit que c'est une liste qui pourrait être appelée à changer. Donc, c'est pas parce que nécessairement un CHSLD y est qu'on aura accès au recours collectif. C'est préliminaire. Il reste encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Mais écoutez, Madame Grenier, vous êtes professeure au département, je le disais, là, de travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Merci d'avoir pris du temps avec nous pour nous éclairer. Et on va voir si on va apprendre de tout ça, qu'est-ce qui va ressortir, puis si on va être prêt, en espérant qu'il n'y en ait pas une, mais s'il devait y avoir une prochaine pandémie, si on était prêt à y faire face.
Parfait, merci à vous.
Écoutez, on change complètement de registre pour la deuxième portion d'émission qui s'entame dans les prochaines minutes. On recevra Franck Perrelès. Il est président du syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec pour discuter des mesures de sécurité dans les palais de justice qui sont décriées. Et c'est pas d'hier hein, qu'on dit que les mesures devraient être rehaussées. On a récemment eu un homme là, dans un palais de justice qui a été violemment attaqué à l'arme blanche directement dans le palais de justice. Donc, ça soulève beaucoup de questions. On a déjà eu un événement où il y a eu un événement qui a dégénéré ici au palais de justice de Maniwaki entre justement des constables spéciaux et un prévenu qui était là. C'est toute une histoire, on s'en souviendra, hein, un jeune homme qui avait été atteint par balle à la tête à ce moment-là pour une histoire qui avait dégénéré. Donc, on en reparle dans les prochaines minutes. Restez des nôtres, ça risque d'être bien intéressant.